Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Neila Latrousse.
Steven Boyer qui évoquait il y a quelques instants le séminaire gouvernemental pour accorder les violons avant la journée du 5 décembre. Eh bien, les ministres dînent à Matignon et ils y sont encore pour 2 heures au moins. Cette question, l'exécutif se prépare-t-il à rejouer l'hiver 95 ici? L'inspiration venait d'ailleurs, tiens, de Grande-Bretagne. Pourquoi pas Margaret Thatcher, inflexible lors des grandes grèves de 85? Réponse dans quelques instants et puis nous referons le point complet sur la situation dans le sud. Vous verrez que l'affaire prend un tour politique. Débat avec nos confrères Daïko Douy, journaliste politique de France Info TV, François Hernenwein, éditorialiste et rédacteur en chef à La Croix, Isabelle Alonso, romancière chroniqueuse à la télévision dans Je t'aime, etc. sur France 2 l'après-midi. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous.
Bonsoir.
Une demi-heure
Bonsoir.
De débat ce soir Bonsoir. Avec vous, jusque 20h30. Merci d'écouter France Info. Ils quitteront donc Matignon d'ici 22h, après plus de 5 heures de séminaire gouvernemental. Les ministres réunis autour d'Édouard Philippe, pourquoi faire? Édouard Philippe l'a expliqué tout à l'heure en arrivant à la réunion.
L'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des membres du gouvernement, rappeler les fondements, les éléments essentiels de la réforme, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer. C'est aussi d'essayer d'accompagner les Français dans cette période de discussion et peut-être aussi de journée d'action sociale qui se prépare. La liberté de manifester, la liberté de faire grève sont deux libertés auxquelles nous sommes tous évidemment attachés. Mais il y a aussi beaucoup de Françaises et de Français qui voudront travailler, qui voudront se déplacer. Et il faut qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles.
Daïko Douy, l'objectif c'est de s'éviter les prises de parole malheureuses de 2-3 ministres dans les jours qui viennent.
Mais c'est d'éviter que ce soit des voix discordantes, que chacun parle de la même voix. Et quand il dit aussi que tout se passe bien, on essaye aussi de mettre un plan B de la continuité de l'État dans tous les secteurs où ça va être concerné. Mais on avait vraiment l'impression que c'est une veillée d'armes. Vous savez, on sait que l'ennemi va attaquer à l'aube, donc on se confie.
On est dans le registre militaire.
Ouais, à celui qui est à côté en disant, tu sais, si je vais pas m'en sortir, tu diras à mes parents que je suis courageux et tout. Mais l'idée, c'est de serrer les rangs, absolument. Et il y a le côté veillé d'armes, parce qu'évidemment, ça finit à 22h, même peut-être à 23h. Il y a cet aspect-là. Bon, c'est parce qu'ils ont choisi de laisser les ministres avec leur famille pour le déjeuner. Mais voilà, cet horaire qui est quand même un peu étrange, inhabituel, donne un aspect comme ça, une ambiance veillé d'armes à cette réunion.
Et pourtant, consigne avait été donnée de venir en tenue décontractée. Hein. On a pu voir pas de cravate pour les hommes, jean pour tous les membres du gouvernement. François Hernenwein, il y a presque un côté même pas peur en fait dans ce dress code.
Oui, je pense que le message est assez clair. Le gouvernement l'a dit répété, Édouard Philippe notamment, et Gérard Darmanin ce matin. Le gouvernement veut conduire sa réforme, il ira au bout, etc. L'image de la veillée d'armes est assez juste. On se prépare d'ailleurs à une épreuve et je pense que le gouvernement évalue les risques et son objectif là ce soir, comme il ne sait pas ce qui se passera exactement mercredi, c'est de créer les conditions qui permettront de limiter la casse. Ça c'est le premier objectif et le deuxième a été évoqué tout à l'heure. C'est aussi d'avoir une parole cohérente entre les différents ministres, les différentes autorité de l'État concernée par ce dossier. Et je pense que c'est ce qu'il est raisonnable de faire à quelques jours d'un mouvement qui sera vraisemblablement de grande ampleur.
Isabelle Alonso, quand on parle de veillée d'armes, ça veut dire qu'on va forcément vers l'affrontement?
L'affrontement, on y est. Hein. On y est depuis un petit moment. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on a l'impression qu'ils cherchent à savoir ce qu'ils vont dire. Davantage que ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que le projet de réforme est tellement flou, il est tellement chacun tire de son côté. On a l'impression qu'ils essayent de se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire et comme d'habitude, ils ont plus une idée de communication qu'une idée de réellement expliquer quelque chose qui n'est pas clair puisqu'on présente comme un souci d'égalité quelque chose qui est un souci d'économie. Les deux ne vont pas forcément de pair.
Mais on est encore dans le dialogue, dans le dialogue social notamment.
On l'a pas été depuis un moment et on le sera toujours pas. C'est pas leur style. Ils disent qu'ils communiquent, mais ils ne communiquent pas.
Non, là on est dans la communication vis-à-vis de l'opinion. Et je crois qu'ils ne se calent même pas sur l'élément de langage ce soir. C'est vraiment l'idée de dire, on tient bon, on reste groupé, on ne va pas reculer forcément tout de suite. En tout cas, on ne panique pas. Quoi. Voilà, c'est au-delà des mots, on se tient les coudes comme dans une veillée d'armes, où on la connaît la stratégie. Peut-être qu'Isabelle a raison, on la connaît peut-être pas tout à fait, mais on la connaît quand même un petit peu.
On n'a pas une idée très claire.
On la connaît un petit peu, mais l'idée c'est on se tient la main, on est plus là-dedans ce soir.
Vous dites pas reculer tout de suite, je voudrais vous faire écouter justement Adrien Quatennens, numéro 2 du mouvement de la France Insoumise, pour qui l'objectif, lui, c'est de faire reculer le gouvernement.
Le 5 décembre, celles et ceux qui feront grève, comme celles et ceux qui vont subir la grève, ont en fait un intérêt commun à ce que le gouvernement remballe sa réforme. Le gouvernement va jouer des divisions. Si vous voulez, la réforme, elle sera votée, que les gens comprendront toujours pas. Avec un gouvernement qui en plus leur dit « rassurez-vous, ça ne vous concernera pas », etc. Moi d'ailleurs, je me pose la question, si cette réforme est un progrès, pourquoi on rassure en disant « ça ne s'appliquera pas à vous ». Si c'est un progrès, tout le monde devrait courir pour que ça s'applique à soi-même. Ça n'est pas le cas.
François Arnonvain, il met le doigt sur une contradiction, Adrien Quatennens, ou c'est pure rhétorique?
Non, mais là, on est clairement dans le jeu de rôle. Chacun joue sa partition, plus ou moins habilement. Christophe Castaner a dit aujourd'hui qu'il était pas, il fallait pas avoir présent à l'esprit l'idée même que le gouvernement puisse reculer. Chacun campe sur ses positions à la veille de ce moment symbolique que sera le 5 décembre. Et... enfin, cette dramaturgie a un petit côté ridicule, on va le dire.
Justement, il y a un peu de dramatisation avant le 5 décembre, Isabelle Alonso. On essaye de montrer que voilà, que le 5 décembre, il y aura un avant, un après. Et si le gouvernement sort victorieux, il y aura un après, du coup, qui sera...
Je crois qu'il y a une sorte d'incantation, cette façon de dire non, on ne cédera pas. On sait historiquement, ça a été suivi, cette phrase a été suivie par tellement de reculades qu'on finit par se dire, ils ne devraient surtout pas dire ça. Mais non, ils disent, oui, on tiendra bon. Alors, est-ce que ça va rejouer Juppé 95? Moi, personnellement, je l'espère bien. Mais,
Et Thatcher 85?
Mais si ça doit être Thatcher 85, je dirais, hélas, hélas.
C'est
possible. Mais je ne crois pas qu'ils
aient mis en place les conditions pour éviter un blocage du pays en Grande-Bretagne.
C'était une grève des mineurs qui a duré un an où elle n'a jamais cédé, ils ont arrêté au bout d'un an parce qu'ils n'étaient pas payés malgré la solidarité qui s'était exprimée dans le pays. Mais avant, Thatcher avait pris toutes les réserves de charbon possibles pour éviter d'être en pénurie. Mais ce n'était pas le pays qui était totalement bloqué. Enfin, voilà, c'était la différence.
Je crois aussi, et j'espère, je me fais une autre idée des gens qui nous gouvernent aujourd'hui en France, qu'ils n'ont pas la total manque d'empathie que pouvait avoir Mme Thatcher.
Non, ça, je pense que Thatcher, ce n'est pas le modèle que va suivre Emmanuel Macron, même s'il recule pas.
J'espère que non. D'ailleurs, je pense que non.
On verra si, justement, dans quelques instants, si tout cela n'a pas à voir avec un chiffre. 21% des Français indécis encore sur la grève du 5 décembre. Peuvent-ils basculer d'un côté ou de l'autre? Et comment le gouvernement peut s'y prendre pour éventuellement les rallier à sa cause? Réponse juste après le rappel de l'information. 20h10, France Info, Solène Cressin.
La seule urgence à ce stade, protéger les vies. Le maire de Cannes parle d'une intensité exceptionnelle et d'inondations soudaines et nombreuses. Les pluies qui touchent le sud-est de la France sont en train de se renforcer. Les Alpes-Maritimes et le Var sont toujours en vigilance rouge, la plus haute. Les sauveteurs ont secouru cet après-midi un homme réfugié sur le toit de sa voiture près de Cannes. À Mandelieu-la-Napoule, 1200 foyers sont sans électricité. Le préfet des Alpes-Maritimes prévoit d'étendre la fermeture des écoles, collèges, crèches et lycées à tout l'ouest du département demain. Les autorités demandent aux habitants du Var et des Alpes-Maritimes de rester impérativement chez eux dans les points élevés. Il y a eu des évacuations préventives dès la mi-journée. Plusieurs stations-service du Finistère réquisitionnées pour les pompiers ou tous les services chargés de missions prioritaires. Le dépôt pétrolier de Bresse et trois autres en Bretagne et au Mans sont bloqués depuis trois jours par les professionnels du BTP. Ils protestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole. Le ministre de l'économie reçoit une délégation demain. Les deux victimes de l'attentat de London Bridge au Royaume-Uni sont deux jeunes diplômés de Cambridge, un couple de 25 et 23 ans engagés dans la réhabilitation des prisonniers. L'assaillant abattu par la police était lui-même un ancien prisonnier condamné pour terrorisme. Et puis en Ligue 1 de football, Rennes a battu Saint-Etienne ce soir 2-1 avec un but à la dernière minute du capitaine Damien Da Silva. Plutôt, Nantes s'est imposé à domicile 2-1 face à Toulouse. Pas de Monaco PSG ce soir à cause des intempéries.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Ce chiffre, sondage IFOP pour le JDD, un Français sur cinq indifférent à la mobilisation du 5 décembre. François Arnonvain, rédacteur en chef, éditorialiste à La Croix. Est-ce que la clé, c'est ces 21% d'indécis ou d'indifférents?
Enfin, on peut lire les chiffres et c'est les querelles d'interprétation. Je pense que 46% des sondés qui semblent soutenir ou ont de la sympathie pour le mouvement du 5 décembre... C'est une indication quand même des gens qui vont voir leur vie quotidienne perturbée et qui, malgré ça, acceptent de soutenir un mouvement qui va leur causer beaucoup d'embarras. Ça, c'est une indication intéressante. Quand la menace est ne pas pouvoir se déplacer, être privé d'un certain nombre de services publics, etc., en général, on n'est pas bienveillant. Et malgré ce contexte, les embarras liés à cette grève du 5 décembre, on trouve encore 46% des sondés avoir de la sympathie pour le mouvement. Les 21% indifférents, c'est classique dans les sondages, il y a des gens qui n'ont d'avis sur rien, donc ils vont attendre de voir comment ça tourne avant de se faire une opinion.
Ça fait sourire Isabelle Alonso.
C'est toujours amusant de voir que c'est les indifférents qui attirent le plus l'attention, c'est-à-dire ceux qui s'en foutent, il se passe n'importe quoi, ils disent « ouais, moi, m'en fous ». Mais c'est pas eux qui sont intéressants, c'est effectivement les 40 et quelques pourcents qui, quoi qu'il advienne, soutiennent le mouvement, parce qu'eux-mêmes se sentent concernés, j'imagine.
Et en tout cas, Daï Kodoui nous le disait tout à l'heure, hein, la bataille de l'opinion est clairement engagée pour convaincre ou rallier à elle un certain nombre de Français, de contribuables. La majorité se déploie notamment aujourd'hui, plateau, studio, Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, par exemple, était l'invité de France 3 ce midi.
C'est quand même un peu historique, ce qui se passe. Le Rassemblement National sera aux côtés du Parti Socialiste pour manifester, là où la CFDT, qui est le partenaire historique des forces social-démocrates, n'appelle pas à la manifestation. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, finalement, de faire converger toutes les colères, d'attiser
faire
tout ce
quoi,
qui va
au bout
mal.
Du compte, d'après vous,
vous avez bien compris, tout ça est orienté contre la politique du gouvernement, de ceux qui n'ont qu'un rêve au fond. Ils ont le sentiment qu'on a pris le pouvoir par effraction. Leur seul rêve, c'est de faire en sorte que nous ne réussissions pas.
Daï Kodoui, la réussite du quinquennat repose sur cette seule réforme des retraites, comme semble dire Stanislas Guérini.
Non, mais ce qu'il faut entendre dans Stanislas Guérini, c'est que c'est un chef de parti politique. Donc il attaque les autres partis politiques. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est en fait une attaque contre le Rassemblement National et contre Marine Le Pen, en disant qu'elle n'a rien à faire à cette manifestation qui est de gauche. Ça serait une première, enfin bon, peu importe, elle n'est pas bienvenue, mais il y a quelques, paraît-il, responsables RN qui veulent participer à ces manifestations. Et ce que nous dit Guérini, c'est voilà, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas logique politiquement, elle saute sur tout ce qui bouge
c'est
contre Emmanuel
adversaire.
Macron, qui sera son adversaire au second tour de la présidentielle, puisque c'est le pari, l'analyse, l'hypothèse que font les uns et les autres à En Marche et au Rassemblement National. Donc là, ils profitent de ce mouvement pour attaquer le Rassemblement National. C'est ça ce qu'il faut décrypter dans ce que vient de nous dire M. Guérini.
François Hernenwein.
Mais moi, ce qui me frappe sur le fond du dossier, c'est que le gouvernement campe sur une position ferme, définitive apparemment, et solide. Mais au fond, le contexte ne lui est pas très favorable pour développer une position comme celle-là. La majorité est forte, c'est vrai. La légitimité du président de la République est incontestable. Mais cette majorité n'est pas très structurée, pas très cohérente. On voit bien que, à l'intérieur, parce qu'elle est massive, il y a des sensibilités, des courants assez différents.
Il y a encore eu deux départs de députés
voilà,
cette semaine.
Voilà, mais je voulais pas insister sur ce qui pourrait peiner, mais c'est vrai, ça existe. Mais sa force relative dans le contexte, c'est qu'il n'a pas d'opposition cohérente, il n'y a pas de projet alternatif à la politique conduite par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et ça, ça lui donne une petite force. Mais en tous les cas, ça ne l'autorise pas à essayer de passer en force. C'est cette nuance qui me paraît assez importante.
C'est vrai, Isabelle Alonso, pour le coup, on voit un Emmanuel Macron, en tout cas un gouvernement en peine avec une opinion qui semble, pour l'instant, plutôt aller du côté de ceux qui soutiennent le mouvement. L'opposition en face, pourquoi elle peine à exister ou à proposer un contre-projet ?
Bah déjà, ce qui a fait la force de Macron au départ pour se faire élire est en train de faire un peu sa faiblesse aujourd'hui parce qu'il n'a pas justement de parti structuré et que donc tout le monde lui tape dessus. C'est un peu le punching ball au milieu de la piste. Mais il l'a un peu cherché parce qu'il était soutenu par lui-même et par les gens qui sont venus le rejoindre. Ça, c'est la première chose. Moi, ce qui me frappe dans toute cette affaire, c'est que au lieu de, on est dans un système, au lieu de discuter du fond des choses, de savoir de quoi a-t-on besoin dans ce pays en ce qui concerne les retraites avec un pays qui vieillit, est-ce que la solution, c'est de donner de moins en moins d'argent à de plus en plus de gens, c'est-à-dire que des gens qui ont bossé toute leur vie vont se retrouver avec de quoi ne pas vivre. Et c'est uniquement de ça qu'il faudrait parler.
Mais c'est pas le rôle de l'opposition de le faire, justement.
Bah, l'opposition le fait dans ce qu'elle peut. Elle s'est pris quelques baffes aussi. En tout cas, il ne faut pas compter trop sur le PS, hein, parce que ce n'est pas Macron qui a commencé tout ça à l'attaque en règle. Hein. Les gouvernements précédents en ont fait largement autant. Et on a perdu de vue le but en ne se fiant qu'à des histoires de comptes. Mais c'est pas ça la question. Il faut voir de quoi a besoin ce pays et comment on le finance. Et s'il faut élargir les assiettes de cotisation et faire que toutes les cotisations dues par l'État d'une part ou par le patronat ou par les employeurs, etc., soient payées, et peut-être qu'il y aurait plus de moyens que ce qu'on croit.
Daïkodoui.
Je vais revenir à la difficulté pour l'opposition de se positionner par rapport à l'opinion. C'est pas si clair quand même le soutien de l'opinion. On n'est pas à 50-50, mais on est schizophrène. C'est le sondage Odoxa pour France Info de vendredi, où 2/3 des Français sont pour la fin des régimes spéciaux, mais 2/3 des Français trouvent justifié le mouvement. Parce qu'ils considèrent que ce mouvement de mobilisation n'est pas que contre la suppression des régimes spéciaux, mais est bien plus global parce qu'ils
contre inquiétudes. Tout le monde.
Voilà. Et donc, l'opinion, elle n'est pas à 50-50. Elle est très tranchée, mais contradictoire, y compris peut-être les mêmes personnes qui peuvent à la fois être... voilà. Et donc, c'est très compliqué à se définir comme par rapport à ça. Ça, c'est l'espoir du gouvernement et c'est difficulté pour l'opposition, et ça dépend laquelle, de se positionner. On imagine bien que la droite a du mal à aller contre l'idée qu'il faille travailler un peu plus longtemps, puisque c'est ce qu'elle proposait. Donc, elle critique plutôt la méthode du gouvernement que le fond du dossier, par exemple, pour la droite en tout cas.
François, mais cette schizophrénie est assez partagée. Le gouvernement a raison. La réforme des retraites est nécessaire. Gérald Darmanin rappelle ce matin dans le JDD que les régimes spéciaux coûtent 8 milliards par an aux caisses de l'État.
Oui, enfin, donc c'est fake news comme une maison.
Non, mais c'est véritablement un sujet. Mais le problème des réformateurs, c'est que leur objectif, c'est la réforme, évidemment, mais la tâche d'un réformateur, c'est de créer les conditions pour que cette réforme soit acceptée. Or, le président de la République, depuis 2017, n'a pas vraiment créé le climat nécessaire par une politique déséquilibrée pour que l'ensemble des Français aient envie d'accepter des sacrifices. Et c'est bien ça son problème aujourd'hui. Et je voudrais insister sur cet aspect des choses. Le président des riches, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une lecture de la politique qu'il a conduite depuis 2017. Et une partie des difficultés qu'il rencontre aujourd'hui à réformer, à conduire cette réforme nécessaire, vient précisément de là, une politique qui n'avait pas pour aiguillon comme fil conducteur, le problème de l'équité. Et l'équité aujourd'hui en démocratie est devenue une question assez essentielle.
Et dans quelques instants, Daïkodoui nous expliquera pourquoi Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, un parallèle adressé entre les deux. 20h20 sur France Info, le rappel de l'information avec Solène Cressan. Et on reprend Isabelle Adonso.
Les pluies sont en train de se renforcer dans le sud-est. Le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge aux inondations. Les préfectures demandent aux habitants de ne surtout pas se déplacer ce soir, de trouver refuge dans les points hauts. Un homme a dû être secouru sur le toit de sa voiture près de Cannes. L'autoroute A8 est complètement fermée dans les Alpes-Maritimes. Le préfet envisage aussi la fermeture des écoles, collèges, lycées, crèches demain. À Fréjus, 2 quartiers sont évacués, des salles communales ouvertes pour les sinistrés. Le directeur de Charlie Hebdo envoie une lettre au chef d'état-major de l'armée de terre après la polémique sur des dessins du journal sur la mort des 13 soldats français tués au Mali. Riss défend l'esprit satirique du journal, mais reconnaît l'importance du travail des soldats français pour lutter contre le terrorisme. Et demain, un hommage national leur sera rendu aux Invalides. Le gouvernement réunit au grand complet jusqu'à 22h ce soir pour parler réforme des retraites avant une semaine qui s'annonce tendue avec la grève jeudi dans beaucoup de secteurs. L'exécutif veut encore améliorer la réforme, dit-il, et surtout se mettre d'accord sur une ligne commune pour tous les ministres. Et puis en top 14 de rugby, Toulouse a largement dominé Bayonne, victoire 45-10, et Brive a battu le Stade français 26-21. Lyon et Bordeaux sont en tête du classement.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Et Solène Cressan rappelait à l'instant ce séminaire gouvernemental, parti pour durer jusqu'à 22h, nous dit-on notamment au sein du gouvernement. Daïk, vous voyez un parallèle entre ce qui se produit actuellement et Nicolas Sarkozy? Je vous vois rendre un livre de l'ancien président.
Oui, son livre Passion qui vient de sortir. Et la question que vous posez, c'est soit Juppé, soit Thatcher pour le gouvernement. Là. Et ça, est-ce que ce ne serait pas Sarkozy qui finalement a allongé l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans, mais pas jusqu'à 64? Et voilà ce qu'il écrit dans son livre. C'est toujours la même question que l'on doit se poser avant d'engager une réforme sensible. Jusqu'où et jusqu'où faut-il aller? Ce n'est pas une affaire de courage, car lorsqu'une majorité de Français a décidé, pour une raison ou pour une autre, que cela ne passerait pas, rien ni personne ne pourra les contraindre. Ces situations de blocage idéologique ne peuvent se conclure que par le recul du gouvernement. Qu'il soit courageux ou pas, ne changera rien à l'affaire. Peut-être tout juste, cela fera-t-il évoluer le délai dans lequel le retrait devra forcément intervenir. Donc c'est peut-être Nicolas Sarkozy qui répond le mieux à la question qu'on se pose ce matin. Entre Juppé ou Thatcher, qu'est-ce que doit faire le gouvernement et qu'est-ce qu'il va faire peut-être une solution un peu plus moyenne, on va dire.
Est-ce que le gouvernement doit relire Nicolas Sarkozy, Isabelle Alonso?
Relire? Si tant est qu'il l'ait déjà lu. Non, moi, je voulais simplement dire une chose, qu'en tant que citoyenne qui s'intéresse au monde dans lequel elle vit, je suis allée y voir de plus près dans les textes sur la retraite, très sincèrement.
Vous y êtes retrouvée?
C'est imbitable. Alors, si on part du principe que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, ça veut dire que soit ils comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire, soit qu'ils ne sont pas exactement en train de faire ce qu'ils annoncent, auquel cas ça devient très compliqué à présenter. Et que donc, il y a quelque chose à cacher. Je crois que c'est ça dont les gens ont obscurément conscience. C'est on est en train de nous cacher quelque chose et on va se faire avoir au tournant. Et c'est pour ça qu'ils sont arc-boutés. Parce qu'autrement, s'il s'agissait de créer plus d'égalité, je crois que c'est un principe avec lequel tous les Français sont d'accord, l'égalité. C'est même marqué au fronton des mairies. Quoi. Donc voilà, donc, relisez votre Sarko, ça ne peut pas vous faire de mal.
Et on verra ce que le gouvernement racontera notamment ce soir en sortie de ce séminaire, puisque ce sera bien après la fin de cette émission. Mais Jean-François Aquili, j'en suis sûr, débattra de ce sujet demain dans Les Informés. Jean-François Aquili qui sera de retour demain. Allez, on va aller un petit peu dans le sud, ni école, ni collège, ni crèche demain à Mandelieu-la-Napoule. Un fort épisode de pluie est prévu pour ce soir. Plusieurs quartiers de la ville ont été évacués préventivement et sur France Bleu Azur, le maire de la ville, Sébastien Leroy, appelle à la prudence.
Alors, si vous voulez, ce qui est catalyseur et grave, c'est que là, il y a 6 jours, nous avions une crise importante des cours d'eau qui a saturé les sols et qui a totalement pris toutes les réserves de stockage que nous avions. Et à présent, nous avons de très très fortes intempéries et une nouvelle vague qui est encore plus puissante que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je demande à tout le monde, à tous ceux qui ne sont pas dans la ville, d'éviter impérativement le secteur de Mandelieu-la-Napoule. Je demande aux habitants de rester chez eux et de gagner des points élevés. Les axes routiers sont soit immergés, soit totalement interdits à la circulation. Seuls les véhicules de secours et d'intervention sont autorisés à se déplacer.
Le maire de Mandelieu, la Napoule alarmiste ce soir. François Hannenwein, la semaine dernière, nous avions le même épisode dans le sud, et Christophe Castaner évoquait des fautes d'aménagement. On a vu que depuis une semaine, les élus pointent du doigt aussi la responsabilité de l'État en disant « oui, mais nous on veut bien faire de la prévention, mais ça va pas assez vite côté administratif ».
Mais je crois pas dans les quelques minutes qui restent qu'on tranchera le débat des responsabilités. Le débat tel qu'il est en train de se dérouler autour des inondations est un débat classique qui intervient après toutes les tragédies. Qui est responsable? C'est la question posée. Le jeu consiste à se refiler la patate chaude entre l'État et les collectivités locales. C'est une figure de rhétorique bien installée. La vérité, c'est qu'ils sont tous responsables.
C'est que de la rhétorique, c'est pas un problème de répartition des tâches entre la ville, la commune, le département.
On peut améliorer les choses, mais au fond, dans les politiques conduites, ils sont tous responsables. L'État et ses lourdeurs, et les élus des régions concernées, ont raison de protester sur les procédures administratives qui empêchent régulièrement les projets pour lutter, pour construire des digues, de se développer. Et les collectivités locales, évidemment, ont des questions à poser sur leur capacité ou non d'être fermes en matière d'urbanisme, de permis de construire, etc. Et on se trouve à la rencontre de deux logiques. L'État est dans son rôle, les collectivités locales ont leurs faiblesses, on le sait bien. Et encore une fois, c'est une figure de rhétorique. On essaye de se coller l'un à l'autre la responsabilité des ennuis du moment.
Isabelle Alonso.
Déjà, et d'un l'essentiel, ça serait que les gens qui sont dans cette situation soient indemnisés tout de suite, que les travaux nécessaires soient faits tout de suite, etc., etc., parce que ça les amuse peut-être de s'engueuler entre eux, mais vu du niveau des citoyens, c'est de l'argent public, c'est l'argent des assurances, enfin, tout ça devrait se déclencher tout de suite, parce que attendre dans ces cas-là, c'est terrible. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que ça fait des dizaines d'années que les écolos, quels que soient leurs défauts, dénoncent la bétonisation, dénoncent les politiques rurales, tout un tas de choses dont ils disaient déjà depuis très longtemps, vous allez voir, ça ne va pas s'arranger, il va y avoir de plus en plus de problèmes, d'inondations, etc., etc.
Ils n'ont pas été pris au sérieux.
Mais jamais, on s'est payé leur tête pendant des années en disant oui, c'est ça. Et en fait, tout ce qu'ils ont annoncé il y a une trentaine d'années est en train de se produire aujourd'hui et personne ne le dit.
Et c'est possible de détruire ce qui a été mal construit aujourd'hui, Isabelle?
Bien sûr que ça doit être possible à un moment ou à un autre, quoique ça ne doit pas être facile. facile. Hein. On en est encore à faire encore des projets de centres commerciaux, de bétoniser des hectares et des hectares, d'imperméabiliser les sols, ce qui fait que sous le béton, on ne contrôle plus rien. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des glissements de terrain, etc.
Et on continuera à suivre la situation évolutive dans le Sud sur France Info. 20h27, merci d'écouter France Info. Merci à nos informés, Daï Kodoui, journaliste politique sur France Info et TV, pardon, Isabelle Alonso, romancière chroniqueuse à la télévision, notamment dans Je t'aime, etc. l'après-midi.
Et à Ciné Mensuel.
Et à Ciné Mensuel en presse écrite. François Annenwein, tiens, en presse écrite aussi, éditorialiste, rédacteur en chef à La Croix. Votre une de demain, François.
Ben, honorer les morts et entourer les vivants. Alors, c'est à l'occasion de l'hommage national rendu aux soldats tués au Mali. La Croix raconte comment s'exprime la compassion envers les proches des soldats tués. Et c'est un très beau reportage, très humain, là, qui touche au cœur.
Qui arrive demain, au même moment que l'hommage à la nation pour ces soldats. Merci à vous tous.